la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way.
En 1947, on entre dans une phase décisive de la mainmise américaine sur la France. La France, puissance coloniale, est entrée dans une situation de puissance colonisée. C'est quelque chose qui est inabordable aujourd'hui. Réduire toute pensée critique à du conspirationnisme, ça rend impossible l'expression de la moindre scientificité dans l'ensemble des sciences sociales. On a une petite chance en histoire, c'est que on peut être en mesure de continuer à en faire. Après, se pose la question, évidemment, de la diffusion.
Pour la diffusion de faits avérés, mais pas toujours flatteurs pour l'oligarchie financière, pour donner la parole à une historienne comme Annie Lacroix-Risse, professeure émérite à l'Université Paris 7 et chercheuse mal polie avec les riches qui nous gouvernent, il reste encore quelques médias indépendants comme ta radio associative préférée. Salut, c'est JBD, c'est la voix off pour ce nouvel épisode de notre saga autour du congrès de Tours. Survol de l'histoire du Parti communiste français, histoire qu'on nous raconte surtout pas, des fois qu'on aurait envie d'en finir avec le système capitaliste, sait-on jamais. On part aujourd'hui vers 1947, année charnière qui marque le basculement de la colonie française dans l'Empire états-unien. Car après s'être réfugié dans les bottes des nazis, la haute bourgeoisie industrielle et bancaire de France choisit définitivement les jupes américaines. En 1947, bien qu'électoralement puissants, les communistes français sont seuls contre tous les autres partis et syndicats, tous au service du capital, de l'extrême droite jusqu'à la SFIO, PS de l'époque. Objectif des patronats français et américains, pour affaiblir les communistes, affaiblir la CGT. C'est ce que vous allez aujourd'hui nous expliquer, Annie Lacroix-Risse. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom.
1947, le président américain Truman ouvre officiellement la guerre froide contre l'URSS. Face à l'austérité soviétique, la propagande Made in USA chante le pays de cocagne de l'American Way of Life. Parmi les armes du soft power états-unien, il y a ces nouvelles musiques diablement entraînantes qui accompagnent l'invasion américaine, comme ce Pipeliners Blues de 1947 qui annonce le rock'n'roll.
Way out on the prairie with a longhorn ball, cowboys have modernized the old cattle call. They call it a 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
A 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
A 10-gallon boogie sure drives the doggies along.
The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and want. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events.
We like the woogie woogie style of the West. We call it 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
The 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
The 10-gallon boogie sure drives the doggies along.
Retour vers la France d'après-guerre. Et la France de 47, c'est un peu le monde à l'envers. En 47, les communistes français sont contre la grève, quand le patronat, lui, est pour la grève. Explication. Depuis la libération, les communistes se sont lancés dans la bataille de la reconstruction du pays, par patriotisme, pour assurer l'indépendance de la France contre la tutelle états-unienne souhaitée par le reste de la classe politique, SFIO y compris. Les rouges de l'immédiate après-guerre ne prônent plus la grève, mais la production et le redressement. Mais les cocos se retrouvent dans une position délicate face à une classe ouvrière miséreuse qui manque de tout et qui gronde face aux restrictions. Les classes populaires de 47 continuent à crever de faim et de froid comme sous l'occupation. Paradoxalement, mais pour saboter l'action patriotique des communistes, les grèves de 47-48 sont volontairement déclenchées par des provocations du patronat français, désormais inféodé aux Américains. La CGT est censée être réunifiée. Les cégétistes unitaires, donc communistes de la CGTU de Benoît Frachon, sont désormais majoritaires face aux confédérés réformistes de Léon Jouot, devenus minoritaires et qui, n'en étant plus à une trahison près, vont scissionner en décembre 47 pour fonder Force Ouvrière, financée par la CIA et le patronat. On a vu au précédent épisode comment, avant de se faire virer du gouvernement en mai 47, les quelques ministres communistes profitent d'une courte fenêtre de tir, octobre 45-novembre 46, pour imposer quelques réformes, dont la sécurité sociale, les retraites par répartition, les caisses d'allocation familiale, etc. Réforme habilement imposée aux forceps et contre tous les autres partis, y compris contre la SFIO qui, elle aussi, s'oppose farouchement à ces conquêtes sociales. La création des statuts des cheminots, électriciens et gaziers profite surtout à ceux qui se sont battus. Ceux qui n'ont pas lutté n'ont évidemment pas obtenu d'amélioration de leur sort. Le patronat et ses larbins réformistes ont alors beau jeu de souffler sur les braises et de forger le discours désormais bien connu de ces salauds de fonctionnaires et de cheminots privilégiés et grassement payés à rien faire. Diviser pour mieux régner. Objectif du patronat et des Américains, pour casser les communistes, il faut d'abord casser la CGT. Annie Lacroix-Riss.
Les lendemains de la libération ont apporté à une partie de la classe ouvrière, celle qui avait toujours été la plus active, de réelles transformations. On a évoqué une autre fois la sécurité sociale. Il est clair qu'il y a eu quelques réformes qui ont globalement concerné les salariés. Mais la petite éclaircie de 1945-47, elle a était relativement plus favorable aux catégories ouvrières les plus organisées, celles qui s'étaient toujours le mieux battues, même si elles se sont battues dans des conditions extrêmement délicates, parce que c'est incontestable, la bataille de la production mettait les communistes habitués, comme disaient les socialistes, ravis de leur voir confier des postes dans lesquels ils s'opposeraient à la classe ouvrière. Ça ne les avait pas habitués, les communistes, leur vie antérieure, à éventuellement s'opposer à la classe ouvrière parce qu'elle voulait manifester sa colère. Donc, qui s'en est tiré le mieux ? Les métallos, ceux qui pouvaient profiter du salaire au rendement, les mineurs qui avaient un statut d'enfer, les gaziers électriciens qui ont été relativement privilégiés. Je dirais d'ailleurs que ces catégories ouvrières les plus combatives avaient toujours été relativement privilégiées. Parce que ce qui est privilégié dans une classe ouvrière, c'est la fraction qui se bat. Quand on se rappelle l'image d'Épinal des accords de Matignon desquels on nous expose que voilà, les patrons ont presque versé des larmes quand ils sont aperçus que les salaires des brodeuses étaient des salaires de misère, parce qu'ils s'en étaient pas aperçus avant. Il faut bien mesurer que les professions qui étaient les moins organisées, professions à majorité féminine, mais bien d'autres aussi, tous ceux qui ne s'étaient jamais battus, c'est vrai qu'ils étaient plus mal lotis que les autres. Ceux qui s'étaient le mieux battus ont été le mieux servis. Et ceux qui ne se battaient pas et qui étaient représentés par des organisations qui non seulement ne se battaient pas, mais qui étaient complètement alignées sur la SFIO et donc sur le patronat, parce que les liens entre la SFIO et le patronat étaient plus intenses encore qu'ils ne l'étaient depuis quasiment la naissance de la SFIO, dans ces catégories, il a été très facile à ceux qui ne se battaient pas et qui organisaient le blocage des salaires d'accuser les unitaires de ne pas obtenir pour la classe ouvrière ce qu'ils obtenaient pour quelques privilégiés ou ce qu'ils n'obtenaient pas. Et c'est une des clés d'ailleurs de la scission et de certaines des grèves de 1947. Le fond de toutes les grèves de 1947 jusqu'à la scission de fin novembre-décembre, ces grèves ont pour fondement une situation ouvrière et une situation des salariés catastrophique. Jusqu'en 1948, la France vit sous le règne du rationnement, la France ouvrière est très mal alimentée, elle l'est même de plus en plus. Un des moyens, je dirais, d'animer l'action sociale, c'est en août 1947, la tentative communiste de réagir alors que la France se voit infliger une ration de pain inférieure à celle de la libération de 250 grammes au moment même où la bizone anglo-américaine d'Allemagne occidentale voit relever sa ration de pain à 350 grammes quotidiens. On est donc dans une situation extrêmement difficile pour la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle a accepté depuis la bataille de la libération d'abord, puis la bataille de la production, comme lancée par Frachon, comme lancée par le programme immédiat du CNR. Hein. La classe ouvrière, elle a vécu dans des conditions d'extrême précarité. Or, qu'est-ce qui se passe après la libération ? Une hausse monstrueuse des prix. Un blocage quasi total quand même des salaires. Donc il y a la base sociale pour un très profond mécontentement qui n'a cessé de grandir depuis la libération, qui a failli d'ailleurs déboucher dès le printemps 1945 sur des grandes grèves. C'est vrai que pendant 2 ans, le pays n'a pas été en grève parce que les communistes ont été opposés aux grèves. À partir du moment, particulièrement après l'échec du référendum progressiste de mai 1946, à partir du moment où il est clair que la France est bien dans la zone occidentale et qu'elle aura une voix américaine et qu'il ne sera pas autre chose. À partir de ce moment-là, on entre dans une situation où d'abord les communistes qui tiennent la CGT, les communistes sont confrontés à une situation difficile, délicate, alors que la baisse du pouvoir d'achat allume la colère. Parce qu'il n'y a jamais aucun autre arrière-plan aux grèves qu'une situation sociale calamiteuse pour les salariés. Ce qu'on nous raconte aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une grève, il y a eu des campagnes anti-CGT, la CGT rouge qui agressait les cadres, qui n'avait que des arrière-pensées politiques. Ça, c'est le cadre de la vie sociale depuis la création de la CGT, même à l'époque où la CGT est devenue récemment très raisonnable. Simplement, en 1947, au lendemain d'une guerre si dure pour la classe ouvrière et pour les salariés, pour ceux d'en bas, alors que la France s'engageait vers la voie d'hégémonie américaine, cette conjoncture a été essentielle dans toute l'année 1947. Il y a des périodes où on souffre autant et où il n'y a pas des sortes d'oppositions effrayantes entre ceux qui détiennent l'influence sur la classe ouvrière, ceux qui sont pour la grève, ceux qui sont contre la grève, etc. On regarde les années 1939, la CGT de Jouot, elle n'a jamais été pour les grèves. Jamais. Elle n'a jamais soutenu une grève. Jouot a considéré que les grèves venaient trop tôt ou trop tard, jamais à temps. C'est une donnée qu'il faut comparer à celle de l'après-guerre. Pourquoi il y a des grèves ? Parce qu'il y a du mécontentement et parce qu'il y a une organisation du mécontentement, des forces qui sont capables d'organiser ce mécontentement. C'est le cas de certains aspects des grèves de 1947. Or, en 1947, on entre dans une phase décisive de la mainmise américaine sur la France. C'est une question qui n'est abordable dans aucun domaine aujourd'hui, mais c'est une question essentielle. La France, comme l'ensemble des pays d'Europe occidentale, et d'ailleurs depuis quelques décennies d'Europe orientale, est entrée dans une situation, elle qui était une puissance coloniale, de puissance colonisée. C'est quelque chose qui est inabordable aujourd'hui, parce que est impraisentable l'étude de ce qu'est la mainmise d'une puissance étrangère. Or, 1947, c'est une année où se pose en permanence la question du basculement ouvert de la France dans l'ère occidentale. Et pas seulement de manière strictement idéologique. Quand les dirigeants américains qui discutent avec les dirigeants français du matin au soir et même du soir au matin, un certain nombre de dirigeants des États-Unis expliquent au printemps que l'enjeu de la situation, c'est de casser la CGT. Ça a été une des clés du 4 mai 1947.
4 mai 1947, date de l'éviction des quelques ministres communistes que De Gaulle avait dû laisser rentrer au gouvernement après les élections de 1945.
L'analyse commune aux dirigeants français, aux dirigeants américains, qu'on ne pouvait évincer les communistes que dans la mesure où la CGT apparaissait sérieusement blessée. À deux égards, avec la grève de Renault, qui avait montré les communistes en position très difficile, bien qu'ils aient récupéré l'affaire, et d'autre part, avec ces élections catastrophiques pour la CGT. Aujourd'hui, si elle avait 59% des voix à une élection quelconque, on ne peut plus dire aux élections de la Sécurité sociale, puisqu'elles ont été supprimées par De Gaulle en 1967. Mais tout de même, cette question du contrôle de la CGT a été au cœur de toutes les mutations de 1947, y compris du déclenchement des grèves. Dans l'année 1947, il y a deux thèses, si je puis dire. Il y a la mienne, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « La CGT de la libération à la scission », 44 et 47. Et il y a le livre de Robert Mincherini, dont le titre est très joli, « Guerre froide, grève rouge, parti communiste, stalinisme et lutte sociale en France, les grèves insurrectionnelles de 1947-1948 ». Au fond, ce qu'il explique, c'est que tous les développements de 1947 s'expliquent par le stalinisme. Mais il y a un grand absent du livre, ce sont les Américains. Il y a Staline, il y a Moscou, mais il n'y a pas Washington. Or, qui a l'initiative ? Et en 1947, la question essentielle qui est posée pour les dirigeants français et pour les dirigeants américains, c'est la question de se débarrasser définitivement, pas du Parti communiste, c'est quand même encore un peu délicat, mais de l'hypothèque que fait peser l'unification de la CGT. 1947 pose la question, non pas du tout de l'insurrection, mais quand on suit de façon fine la classe ouvrière à travers toutes ces régions, je l'ai fait, c'était pour une thèse d'État, on mesure la ressemblance extraordinaire avec la situation de 1938-1940. Parce qu'à Marseille, où, comme pour provoquer les grèves, évidemment, comme partout, les provocations patronales et étatiques n'ont pas manqué, de toute façon, c'est la clé du déclenchement des grandes grèves, hein. Si on fait toute l'histoire des grèves du XXe siècle, on a bien sûr ce facteur déclenchant qui est la mesure ultime de provocation, comme celle de Marseille, en novembre 1947, peu après ces élections municipales triomphales pour la droite, notamment pour la droite gaulliste, pour la SFIO, avec un basculement général des municipalités ouvrières de 1945, parce que les communistes ont conquis une série considérable de municipalités. En 1945, les mesures de provocation comme l'augmentation de 43% du ticket des autobus. Donc, cette volonté de déclencher des grèves dans une situation d'extrême fragilité de la CGT, elle a été consubstantielle à l'année 1947. Ça explique d'ailleurs que dans les premières grèves de 1947, les communistes cet été encore souvent très mal à l'aise. La classe ouvrière est désormais victime, c'est clair. Les États-Unis sont de plus en plus insistants. Entre mai et juin, on entre en pleine promotion de ce qui n'est encore rien, puisque les premiers prêts n'interviendront que fin 48, c'est-à-dire l'espoir du plan Marshall qui a dicté toute l'année 1947, c'est-à-dire le fameux discours de Harvard du secrétaire d'État Marshall, hein, expliquant bien benoîtement que les États-Unis veulent relever l'Europe de la misère. Ce qu'on n'explique pas aux gens, c'est qu'ils veulent la relever sur la base de la reconstruction prioritaire de l'Allemagne. Il ne s'agit pas du tout d'aider les pays, il s'agit de constituer une Union européenne qui offrira un ventre mou aux investissements de capitaux américains et aux marchandises américaines. Entre mai et juin 1947, tout se fait autour de ce thème, alors que j'y insiste, les dirigeants français, les dirigeants américains discutent tous les jours. Il faut mesurer ce qui est une chose encore indicible aujourd'hui, ce que veut dire le fait pour les partis non communistes, de la droite à la gauche, d'être fourrés à l'ambassade des États-Unis du soir au matin.
Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelques 30 000 ouvriers, se sont mises en grève.
En avril 47, pour déstabiliser les communistes dans leur patriotique effort de reconstruction, le patronat et ses marionnettes socialistes, paraît-il, organisent des grèves, notamment dans les usines Renault qui ont été nationalisées. Le Parti communiste se retrouve alors obligé de suivre les grèves.
En mai 1947, les communistes se rendent bien compte que ce qui s'est passé chez Renault, ça va se passer partout. Ils ne résistent plus du tout à la grève, comme ça a été le cas en 1945. Mais il ne faut pas du tout imaginer que dans les mois qui suivent l'éviction, ce sont les communistes qui déclenchent les grèves. Même si les communistes tentent d'organiser, bien entendu ont le souci de ne pas se mettre en contradiction avec leur mandant, toutes les grèves du printemps et de l'été 1947 sont des grèves précisionnistes. C'est remarquablement exposé par une série de militants socialistes non sionistes, car il y en a eu, qui viennent raconter dans les sessions syndicales que les socialistes organisent partout des grèves qui, compte tenu de la scission en cours financée par le patronat et financée par Irving Brown, va aboutir à la casse de toutes les fédérations. Et il y en a qui viennent raconter que dans les ministères socialistes, s'organisent les groupes syndicaux socialistes qui sont les artisans de la scission, qui eux aussi, de jour et de nuit, s'en vont dans les ministères socialistes et expliquent comment ils sont en mesure de casser bientôt les cheminots. C'est une des clés de l'intervention d'Irving Brown.
Et Irving Brown, l'espion de la CIA chargé de casser les syndicats rouges en Europe, et qui sera notamment le financeur de Force ouvrière.
De juin à octobre, ça se passe comme ça tout le temps. C'est vrai de la grève des cheminots, de la grève de la RATP, tandis que la CGT se déchire de plus en plus ouvertement. Officiellement, il y a deux motions, une motion majoritaire, une motion minoritaire, très minoritaire. Mais les minoritaires y disposent de l'ensemble de l'appareil d'État. Ça fait penser à l'avant-guerre. La grève des cheminots de 1910, comme la grève des cheminots de 1920, elle a bénéficié de l'ensemble du soutien de l'appareil français. On avait mobilisé les cadres, tout ce qui était mobilisable contre la classe ouvrière cheminote. Et je rappelle que chez les cheminots, il y a les cheminots et il y a les ateliers des chemins de fer. C'est le fief du syndicalisme révolutionnaire. C'est le fief de la CGTU. Ils ont fait l'objet, dans les luttes de classe du XXe siècle, d'une élimination prioritaire. Supprimer les ateliers de la SNCF, c'était supprimer une partie de la combativité ouvrière chez les cheminots. Les cheminots, c'est pas seulement les circulants, c'est les prolétaires des ateliers, puisque l'ensemble des compagnies privées d'avant la nationalisation, l'incomplète nationalisation de 1937, qui laisse aux dirigeants des sociétés privées de fait la direction de la SNCF, hein, parce que c'est l'ensemble de leur très haut encadrement qui va diriger la SNCF. Les militants communistes, et je pense en particulier à une extraordinaire intervention d'une militante marseillaise, on est à Marseille, dans la cité du Parti communiste, du stalinisme, patati, voilà ce que dit Alix André le 19 novembre 1947, dans une intervention particulièrement caractéristique de la non-pertinence de la thèse du mouvement insurrectionnel. Voilà ce qu'elle dit. La situation est extrêmement difficile. Les ouvriers sont isolés. À notre avis, ça va gagner le reste de la France. Elle parle du mouvement qui s'amorce à Marseille, hein, qui, je le rappelle, éclate à la faveur, si j'ose dire, d'une augmentation du prix des transports publics de 43% d'un coup, hein, quelques mois après la diminution drastique de la ration de pain. Hein. Je rappelle la France victime du rationnement. Une France ouvrière qui ne peut pas se nourrir avec le marché noir. Voilà ce qu'elle dit, ça va gagner le reste de la France. Pour nous, ça nous enlèverait un peu de cette force armée qui met Marseille en état de siège. Et nous aurions plus de liberté pour nous expliquer. Nous verrons revivre les jours de 39-40, sans parler de la suite. La classe ouvrière sent le danger et se raidit. Je rappelle quand même, puisqu'on nous sert les grèves insurrectionnelles de novembre 1947, que Marseille ayant inauguré une tactique fort efficace, le Conseil des ministres du 14 novembre officialise une augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité de 45%, des tarifs de la SNCF de 25%, de la RATP de 25%, 43% à Marseille, hein, 72% au Havre, municipalité communiste de 1945, 25% à Saint-Étienne. Tout ça, ça arrive au début de novembre 1947, dans une conjoncture où les dirigeants américains disent aux dirigeants français qu'on est en mesure de casser la CGT. Il faut voir les interventions de William Bullitt, qui a été, avant la guerre, l'ambassadeur à Paris, qu'on présente comme un anti-nazi remarquable, etc. Bullitt a fréquenté tout ce qu'il y avait de plus pro-germanique dans la haute société française. Les Américains, dont lui, passent leur temps à Paris toute l'année 47. Il explique que, voilà, on arrive au moment crucial où on va tout casser, et on casse tout. Alors, il y a d'un côté Mancherini qui explique que ce sont des grèves insurrectionnelles. Finalement, dans la production acceptable, il n'y a que Staline qui intervienne. Mais ce n'est pas ça qui se passe en France.
Il règne une fois de plus sur le pays une ambiance pourrie de mensonges et de trahisons. Et une pause musicale d'époque nous fera donc le plus grand bien avant de poursuivre l'exploration de ce marécage nauséabond.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
La douce France que Charles Trenet chante en 1947 n'est qu'une image d'Épinal qui ne correspond en rien à la très dure réalité de l'époque. Dans cette France de 47, les communistes sont comme d'habitude seuls contre tous. Et en décembre 47, les patrons sablent le champagne. Pour affaiblir les communistes, ils ont enfin réussi à diviser la CGT. Annie Lacroix-Riss.
Je vais vous raconter une anecdote. Ma mère avait un cousin germain qui était chauffeur de maître de Georges Villiers, dirigeant de l'organisation patronale unique, le Centre national du patronat français. Il avait pour dirigeant Georges Villiers, transformé en grand résistant, maire de Lyon, grand résistant, évincé quand même tardivement en 1943 dans des conditions de Pax Americana. Il avait été pro-allemand depuis l'origine, ce maire de Lyon, et grand industriel de la métallurgie. On nous explique qu'il est revenu de camp de concentration, mais il ne fait pas partie des concentrationnaires qui sont revenus à 35 kilos.
L'une de ces déportations d'opérette que les nazis appelaient « déportation d'honneur » et qui n'étaient que de confortables internements comme ceux auxquels Léon Blum ou Léon Jouot auront droit, histoire de faire passer ses revenants pour des héros persécutés.
Georges Villiers, il avait été mis à la tête de l'organisation patronale. Et alors, il avait donc pour chauffeur de maître le cousin de ma mère. Et lui, il n'a pas vu les archives, le cousin de ma mère. Mais il a immédiatement raconté à sa famille à quel point le patronat, qui y avait largement contribué, avait sablé le champagne le jour de la scission officielle de la CGT. On le sait même par une personne, je dirais, aussi respectable pour nos élites de Sciences Po que feu Georgette Elger. Puisque dans son ouvrage sur la 4e République, elle n'a pas caché le rôle que le patronat avait joué dans la corruption du monde politique, le patronat a récupéré à son service toute une série des chefs de la répression de l'occupation, de la Deuxième Guerre mondiale. Je cite pour mémoire le cas de Bousquet, qui devient directeur de la Banque d'Indochine, et Boutmy, préfet particulièrement sanguinaire. En juin ou juillet 1944, il a accepté des Allemands la préfecture régionale de Lyon. En juin 1944, il n'y avait plus foule au sein des forces de répression pour s'afficher aux côtés des Allemands. Qu'est-ce qu'il fait après-guerre? Il est immédiatement embauché par le patronat, par le CNPF, dont il gère une des caisses les plus importantes, assurant l'irrigation des milieux politiques de la SFIO jusqu'à l'extrême droite. Évidemment, communistes exclus. Voilà ce qu'est la réalité de 1947, et bien sûr des années suivantes. Ces gens ont passé l'année en multipliant les chausse-trappes dans une conjoncture calamiteuse pour la classe ouvrière, qui a renoué non pas avec les grèves insurrectionnelles, mais en France, il n'y en a pas eu des grèves insurrectionnelles. On est donc dans une conjoncture calamiteuse pour la classe ouvrière, où on peut dire que les forces de la collaboration, les forces du statu quo, qui ont été les forces de la collaboration, ont récupéré pratiquement toute leur assise sur la population française, et où la classe ouvrière se lance, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, dans des grèves qui sont des grèves de survie. Ce que dit Alexandré, c'est caractéristique des grèves de novembre-décembre 1947. Il suffit de lire une excellente source d'histoire sociale qui a été pendant tout le XXe siècle une source extraordinaire d'histoire syndicale, c'est-à-dire l'humanité. Il y avait, à la faveur du parti issu du Congrès de Tours, cette tradition de ce qu'on appelait les robes corps, c'est-à-dire les correspondants du peuple, des ouvriers, hein, des journalistes ouvriers, qui rendaient compte de tout ce qui pouvait se produire quelque part dans une usine était comptabilisé dans l'humanité. Pour comprendre les grèves de 47, il suffit de lire l'humanité. Voilà. Il en ressort que cette année 1947 est une année terrible pour la classe ouvrière qui n'ont en aucun cas n'aboutit à des grèves insurrectionnelles, mais qui aboutit à des grèves de désespoir dans une conjoncture cependant où le Parti communiste n'est pas encore suffisamment isolé pour être interdit ou pour être inefficace, mais sachant que, à la faveur de cette situation, une scission préparée depuis la réunification, elle vient au jour non seulement parce que les classes dirigeantes se sont mises en mesure de le réaliser, parce qu'elles ont reçu le soutien de ce qui est l'impérialisme dominant, soutien qui ne se démentira plus, de sorte d'ailleurs que, comme ça a été mon cas pendant 20 ans, on consulte les archives du Quai d'Orsay, deuxième moitié des années 40, et dans les années 50, on est sidéré du rôle de direction que les États-Unis ont assumé en France. Donc, ce n'est pas stalinisme, grève insurrectionnelle et question posée des rapports entre Staline et les communistes. Il faut voir ce qu'est la situation de maîtrise complète dans l'ensemble des pays de la sphère occidentale entre le Cominform et ce qu'on appelle le coup de Prague. Entre septembre 1947, réunion en Pologne, près de Varsovie, de Szklarska Poreba, qu'on a à Sciences Po, naguère, transformé en reconstitution de l'international qui a effrayé l'Occident. Et ce qu'on appelle le coup de Prague de février 1948, qui n'est pas un coup des communistes, qui est une réaction communiste à un coup des Américains déclenché pour casser le gouvernement tchécoslovaque. Dans les archives, c'est comme ça que c'est absolument démontré. Pour se rendre compte du contrôle idéologique des masses que suppose la transformation d'un mouvement communiste en situation extrêmement difficile d'isolement en loup-garou, comme le disait De Gaulle.
Un formidable bloc d'État de près de 400 millions d'hommes qui borde la Suède, la Turquie, la Grèce, dont la frontière n'est séparée de la nôtre que par 500 kilomètres, c'est-à-dire à peine deux fois une étape du Tour de France cycliste.
Il faut voir ces messieurs se réjouir comme des petits fous, des malheureux ouvriers, militants, responsables communistes, présentés vraiment comme le loup-garou qui va manger l'agneau, alors même qu'ils se réjouissaient d'un isolement qui leur permettait, comme avait dit Marshall à Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, qui leur permettait non seulement de n'être pas inquiets, mais disait Marshall sur un ton triomphant, alors même qu'il confirmait à Bidault à quel point le plan Marshall serait une catastrophe pour la France, parce que la clé de ce plan, c'était la reconstruction prioritaire du Reich. Comment Marshall lui disait, ne vous inquiétez pas, nous construisons pour 50 années. Il était encore fort pessimiste, puisque les États-Unis étaient en mesure d'assurer aux classes dirigeantes non pas 50 années de tranquillité et de bonheur, mais nous approchons des 75.
La maladie de Marseille s'étendait au pays. En même temps, les métallos de la région parisienne entraient dans le jeu. Après le débrayage de Renault, la grève atteignait Citroën, que la troupe devait faire évacuer pour maintenir la liberté du travail. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord, où 80% des mineurs avaient abandonné les puits.
Il faut se rappeler, en ce qui concerne les grèves, que tout est en place depuis l'été 1947. Les grèves se déclenchent, elles sont parties de Marseille, ou elles se sont développées, et elles ont été assez massives. Tout de même, des millions de grévistes, dans le textile, dans les métaux, chez les cheminots. Les communistes ne le lancent pas, les grèves. Les communistes organisent les grèves. Bien entendu, ils ne sont plus opposés. Ils essaient d'organiser le maximum de grèves. Ils essaient de résister à ce qui est une série de mesures comparables aux mesures de 38. Donc, bien entendu, ils ne s'opposent pas. Bien entendu, ils organisent. Ils sont dans une situation très difficile. D'abord parce que quand la classe ouvrière est en situation d'offensive, c'était un principe d'ailleurs de l'action syndicale, il n'y a jamais eu de scrutin secret. On organise dans les usines des scrutins secrets dans les périodes de défensive. C'est évidemment à la faveur du comportement patronal et du soutien de l'État. Partout, les chefs des groupes socialistes d'entreprise, qui sont les chefs de FO, qui ont déjà déclenché ici et là de premières scissions, sont les organisateurs des scrutins secrets. Le scrutin secret, c'est un scrutin qui favorise la peur et par conséquent la timidité. Et de ces scrutins secrets, au fil des jours, pas au début, hein, parce que dans les mines, la grève est massive. Elle mène d'ailleurs à des affrontements ouverts entre socialistes et communistes, mais qui ne sont pas neufs, là encore, qui sont l'héritage, je dirais, de l'histoire de l'ensemble du XXe siècle, qui font renaître tous les conflits de l'après-première guerre mondiale. Au fil des jours, les communistes se trouvent confrontés à une grève qui s'effiloche, qui se heurte à une répression effroyable. Jules Moch, le Jules Moch ministre de l'Intérieur comme le Jules Moch ministre des Travaux Publics, le Jules Moch des archives étatiques, est un Jules Moch particulièrement serein, qui discute à peu près quotidiennement avec les Américains, qui a aussi peu peur que les Américains de la conjoncture, puisqu'on sait les communistes isolés, mais qui n'en est pas moins nommé par Ramadier, qui continue à être président du Conseil après l'éviction des ministres communistes. Voilà Jules Moch qui est nommé ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Les grèves qui ont commencé donc à Marseille, elles se sont étendues et tout se déroule comme prévu et discuté tous les jours entre Américains et Français. Et Jules Moch est désormais ministre de l'Intérieur. Zulmock est connu, qui est lié à la Synarchie, qui a été membre de X-Crise, qui n'a jamais abdiqué ses liens avec le grand patronat, est nommé ministre et par conséquent, en discussion permanente avec les Américains, décide qu'on va jouer le grand jeu de la répression. Et donc, il exploite une situation, alors il l'exploite avant, mais il l'exploite aussi après, et fait grand cas du déraillement du Paris-Tourcoing.
Près d'Arras, l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avaient déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir.
Je ne peux pas dire ce qui a provoqué le déraillement. C'est quelque chose qui a fort servi une politique de répression prévue bien avant, car la répression organisée par Jules Mock, c'est une répression qui n'a rien à voir avec les actes des communistes au moment même. La répression, elle a été d'autant plus aisée qu'on a réembauché massivement, quand on ne les a pas gardés d'emblée, les policiers qui avaient fait leur carrière de 40 à 44. Il y avait des compagnies républicaines de sécurité à Marseille qui avaient pu sembler hésitantes parce qu'on y trouvait quelques reliques de la résistance communiste, mais les forces de police sont des forces qui n'ont pas changé après 1944. Et donc, que vont retrouver les ouvriers dans les mines, chez les métallos et ailleurs en novembre-décembre 1947 ? Les policiers d'avant. Ce qui a été prévu par le préfet de Paris dès 1944, quand il a donné quitus et 3 mois d'avance de salaire aux policiers des brigades spéciales de tortionnaires de l'occupation, il leur a dit « Vous êtes au chaud pour un moment, on aura bientôt besoin de vous ». C'est-à-dire que les rapports de classe, ça ne disparaît pas d'un coup de baguette magique qui unifierait les classes pour un moment de rêve et d'ivresse commun. Ça ne disparaît pas. La différence avec la situation antérieure, c'est que en France et ailleurs, les classes dirigeantes ne sont plus seules. Elles ont eu de 1940 à 1944 l'appui indispensable, extraordinaire de l'occupant. Elles ne cesseront plus de disposer de cet appui étranger. Et c'est quelque chose qui fait une grosse différence avec la situation antérieure. Dans cette mondialisation du capital, le rôle déterminant de l'impérialisme américain, particulièrement à l'époque de ce qu'on a appelé le siècle américain, qui est en train de se terminer avec de beaux restes, hein, ça a donné aux classes dirigeantes en Europe, notamment en France et en Italie, qui étaient les deux pays de la zone d'influence américaine où avaient réussi à se développer des partis communistes considérables, ça leur a donné une assurance dans la gestion de la répression et dans l'organisation contre la classe ouvrière tout à fait exceptionnelle. Ce qui s'est passé en 1947 se passera de manière encore plus caricaturale en octobre-novembre 1948, où, après avoir déjà renié beaucoup à la suite de la répression de 1947, là, Jules Mock est toujours, j'y insiste beaucoup, avec l'appui des Américains, sur fond d'attente désormais du plan Marshall, car, je le rappelle, les premiers crédits du plan Marshall n'arrivent pas avant les crédits du plan Marshall dit intérimaire, du dernier trimestre 1948, pas 47, 48. Jules Mock décide d'une répression qui est encore plus intense que la répression de novembre-décembre 1947, qui fera plusieurs morts et envoie les tanks contre la classe ouvrière française, c'est-à-dire reconstitue des conditions de répression inouïes depuis la libération. C'est une grève des mineurs, 48. Ce n'est pas des grèves générales. En octobre 1948, ce sont les grèves déclenchées par les mesures provocatrices prises avec l'aide de cet incomparable serviteur du patronat qui était Robert Lacoste, qui avait récupéré son poste de ministre de la production industrielle depuis le départ du communiste Marcel Paul. Et c'est une mesure qui est discutée avec les Américains, qui apporte une atteinte au statut des mineurs monstrueuse. C'est la même provocation que les 43% d'augmentation du tarif des transports publics, soit sur le plan marseillais, soit sur le large plan national. L'atteinte au statut en 1948, les mesures de suppression de postes, les mesures répressives sont telles que les mineurs entrent une fois encore en grève. La répression était plus féroce, hein. Il y a des photos, il y a beaucoup de photos de la grève de 1948, on voit les chars dans les corons. Et il y a eu des morts.
Le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles.
La grande lutte des mineurs de 1948, un film de Louis Daquin.
La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne. Les mineurs aux mains nues ripostent avec ce qu'ils peuvent. Et on trouvera des tribunaux, on trouvera des juges pour condamner ces hommes que l'on accuse d'avoir utilisé des armes à feu. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité. Avec ce qui a été dépensé pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés. Conséquence directe du plan Marshall, le matériel et les équipements américains finissent par avoir raison. Des boulons, des morceaux de bois et des pierres trouvés sur place par des hommes totalement désarmés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme autant des boches. Mais ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Pour Moche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. Laissant libre cours à sa xénophobie, oubliant les monuments aux morts de la résistance qui portent tant de noms à consonance étrangère, il offre aux ouvriers étrangers ce dilemme machiavélique. Le travail du briseur de grève ou la frontière. Pour les Espagnols antifascistes, c'est la mort.
On a oublié tout ça. Et on croit que Jules Moque a eu peur.
En 1966, Jules Moque continuait à prétexter la peur d'un coup de force communiste que dans les faits, ni le patronat, ni les Américains n'ont craint.
Dans les cellules du Parti communiste, l'objectif est le retour au pouvoir. C'est aussi la lutte contre le plan Marshall. Au sommet, enfin, on tente une répétition. On espère un renouvellement du coup de Prague, vieux de quelques mois à peine, car la force des deux partis est sensiblement la même. 31% alors en France, 37% en Tchécoslovaquie. Mais il y a une différence essentielle. Dans le gouvernement de coalition de Prague, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information sont communistes. À Paris, dans le gouvernement de coalition, le ministre de la Défense est le socialiste Ramadier, le ministre de l'Intérieur est socialiste aussi, de sorte que le PC a tous les atouts à Prague, aucun à Paris. Il y a carence volontaire de la partie intéressée du gouvernement d'un côté, volonté unanime de résister de l'autre.
18 années après avoir sauvagement écrasé la révolte des mineurs, l'ex-ministre de l'Intérieur, le socialiste Jules Moque, continuait à mentir comme un arracheur de dents. Annie Lacroix-Riss.
On n'a pas peur d'un parti isolé, un parti résistant, presque exclusivement ouvrier, mais un parti complètement isolé. Et un parti qui ne menaçait rien ni personne. S'il est une personne au sein du gouvernement français, et il faut bien dire que son avis était partagé, qui était sûr qu'il n'y avait en 1947 comme en 1948 aucun risque d'insurrection, aucun risque de débordement, c'est bien Jules Moque. Ce qui ne l'a pas empêché publiquement d'être une espèce de personne effrayée par le sort que promettaient à la France les mauvaises intentions communistes. C'est ça que donnent les archives, ces fameuses archives impitoyables. C'est cette mesure de la différence entre la présentation idéologique des faits et la réalité des faits. La réalité des faits, examinée du point de vue gouvernemental, ou dirons-nous des classes dominantes françaises, ça balaie complètement la thèse de la peur des classes dirigeantes, je dirais autant que le témoignage d'Alexandré expliquant à la mi-novembre 1947 que le Parti communiste a le sentiment de se rapprocher de la situation de 39-40 et des suites. L'image qui triomphe aujourd'hui, c'est l'image que l'idéologie dominante nous donne de la réalité. De toute façon, je dirais que celui ou celle qui lit, qui mesure par la référence aux archives, l'abîme qui existe entre la présentation de la situation de 1947-48 par les dirigeants politiques et les dirigeants généraux de chacun des pays et l'image apocalyptique qui est donnée, se rend bien compte que on ne parle pas de la même chose. On couvre une réalité par une présentation idéologique. Alors, quand il existait un mouvement ouvrier organisé, il y avait 10%, 20% de la population qui était à peu près informée des enjeux sociaux. Aujourd'hui, on n'en est plus là. L'histoire n'existe pratiquement plus comme matière scientifique, en tout cas, ce n'est pas ainsi qu'elle est organisée à l'échelon scolaire. Et par conséquent, cette image purement idéologique de la réalité, qui ne triomphait pas tant qu'il existait un mouvement social organisé, eh bien, cette image a triomphé aujourd'hui. C'est-à-dire que on était, quand on expliquait une situation de ce type dans une position de minorité dans les années 70 ou 80, mais on pouvait entendre un filet de voix. C'est ce qui a disparu. À l'heure où des institutions aussi ridicules, dépourvues de toute substance scientifique que Conspiracy Watch, à l'heure où des institutions de ce type disposent de plages régulières sur le service public de radio, quand on en est à une situation pareille, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre la réalité et la présentation qui nous en est donnée? Il n'y a plus que le ruisselet de la parole, là encore d'ailleurs minorée, parce que présentée comme un peu loufoque, quoi, et par conséquent éventuellement aussi comme conspirationniste. Réduire toute pensée critique à du conspirationnisme, ça rend impossible l'expression de la moindre scientificité dans l'ensemble des sciences sociales. On en est là aujourd'hui en histoire. On a une petite chance en histoire, c'est que on peut être en mesure de continuer à en faire. Après, se pose la question évidemment de la diffusion. Malgré la mise sous le boisseau d'une histoire devenue consensuelle, la conjoncture de crise est telle que ça ne rend pas la situation plus sûre.
Enfin, ça va être compliqué de continuer à faire de l'histoire contemporaine avec la fermeture des archives des années 30 et 40 décidée par le gouvernement de 2021. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont peur là-haut?
Je crois que la conjoncture leur semble redoutable. Cette fermeture indique un état de crise, non pas seulement sociale, mais de proximité de crise idéologique et politique tout à fait intéressant.
C'est sur ces mots, pas plus rassurants que ça, que s'achève ce nouvel entretien avec Annie Lacroix-Risse, qu'on remercie, et que tu peux réécouter sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com, avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au